une création.
Blast.
Adolescence, un podcast de Lou Robert, réalisé par Vincent Deck. Les adultes disent souvent qu'avec le temps, tout passe. C'est faux. L'adolescence ne passe pas. Elle nous imprègne, à vie. C'est quoi être adolescent en 2025 ?
Moi, c'est Lola, j'ai 18 ans. Je suis en dernière année de lycée en ST2S. Bon, c'est pas la filière que je préfère, j'avoue. Sinon, dans mes passions, j'aime bien le sport, mais je crois que je préfère encore plus la lecture. J'ai un compte de chronique sur les réseaux sociaux. Et je kiffe, c'est trop cool. Et j'ai juste envie de faire de la lecture mon métier plus tard.
Épisode 7, Lola, combattre l'anorexie. J'ai donné rendez-vous à Lola chez moi. Elle ne trouvait pas mon immeuble. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue. Je lui ai fait signe de la main. Elle a relevé la tête. Ça m'a bouleversée. J'ai pensé, la maladie est là, elle va monter chez moi. Je vais laisser la parole à quelqu'un qui sait l'anorexie, qui la connaît, qui la comprend, l'éprouve au quotidien. Faire ressentir sa complexité à travers une voix, celle de Lola. Le mot anorexie résonne fort en moi. Il sonne acide, rêche, froid. Je le déteste. Je reprends mes esprits, inspire, expire, secoue mes bras. Tout va bien, ce n'est pas toi, ce n'est plus toi. Lola est assise face à moi. Je lui sers une tasse de thé. Les gens qui ne connaissent pas cette maladie verraient simplement sa maigreur. Ils détourneraient le regard, parce que c'est dérangeant, incompréhensible. Je me plonge dans les yeux de Lola. À chaque fois que je croise une personne qui souffre de ce mal, ce sont toujours les yeux que je regarde, épuisée, triste, parfois sans vie. Comme si la personne n'était plus vraiment là. Comme si la mort avait déjà un peu gagné. Mais dans ce Lola, il y a de la vie. Alors, il y a de l'espoir. Lola souffre d'anorexie mentale. Une maladie qui touche de plus en plus de jeunes filles à la puberté. J'ai été l'une d'entre elles. J'ai parfois l'impression que la maladie m'a volé ma jeunesse. J'observe Lola boire une gorgée de thé. Je me demande comment elle a vécu et comment elle vit encore aujourd'hui son adolescence, avec ce mal qui la ronge.
Je l'ai vécu mal. Là, j'ai 18 ans. Je pense que je suis encore une ado. Je suis une mini-adulte, on va dire ça comme ça. Je l'ai vécu mal parce que on m'a pas comprise comme je l'aurais voulu. Mais j'ai pas su aussi m'exprimer comme il aurait fallu. Mais c'est normal, j'étais pas mature, j'étais une ado. Et je la vis mal aujourd'hui, on va dire, parce que du coup, à cause de soucis de santé, j'ai dû perdre tout mon cercle amical. J'ai perdu toutes les relations que j'avais avec ma famille. J'ai brisé des relations avec mon frère. Avec mon père, ça a été catastrophique. Ma mère, c'est devenu mon domino, ce qui a créé des clans dans ma famille. Ça a été terrible. Donc ouais, mon adolescence, je ne l'ai pas très bien vécu. Au début, ça a été, hein, parce qu'on essaie d'être un peu comme tout le monde. Sauf qu'on s'aperçoit que bah, c'est pas ouf de porter des Levi's avec des slims, quoi. Et qu'on a envie de trouver son style. Sauf que quand on trouve son style, bah, on sort des cases, on sort de la société et les gens, ils n'aiment pas ça.
Tu me parles de problèmes de santé ?
J'ai eu des soucis de santé. Déjà, j'ai commencé par une petite dépression, parce que c'était une petite à ce moment-là. 13 ans et demi, 14, parce que je me trouvais pas comme les filles de mon âge. Je me disais, parce que moi, j'étais quand même assez formée pour mon âge. Et c'était un gros complexe. Pour certains, il y en a qui adorent ça, mais moi, j'arrivais pas à m'identifier à mes copines. Et donc, les garçons, tout le temps, ils mettaient ça en avant. Oui, t'as des formes, machin. Mais oui, mais je suis pas que ça. Donc, forcément, je me suis renfermée. Je me suis dit que j'allais me mettre un peu dans le sport. Ça pourrait me faire du bien. Et mon père, il fait de la piscine. Mon frère fait de la piscine. Donc, mon père, le sport, c'est sa vie. La bouffe, c'est sa vie. Et donc, il était fier de sa fille. Et quand on n'est pas bien dans sa peau, et que notre père nous dit, c'est bien ce que tu fais, enfin, c'est valorisant. Et on se dit, j'ai de la valeur aux yeux de quelqu'un. Parce que ma mère, elle travaillait avec des petits en maternelle. Là, elle est passée au CPE il y a peut-être 5 ans. Mais elle a fait 22 ans de maternelle et elle était tout le temps dans son bureau. Donc forcément, je ne la voyais pas souvent. Pourtant, elle essayait quand même d'être là pour nous. Mais moi, je ne voulais pas la déranger, donc ce n'est pas de sa faute. Hein. Mais du coup, j'avais quand même de la valeur aux yeux de mon père et je me disais cool. Donc moi, en fait, ça a commencé là que je me suis dit, ah mince, ça ne va pas trop, quoi. ok, moi je m'enferme dans le sport. Je m'enferme dans le sport, je mange un peu mieux, donc moins de pain au chocolat, tout ça. Mais normal, quoi, comme tout le monde, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai bouffé quand même 5 pains au chocolat dans la journée, on va se détendre. Normal. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse des copines en troisième. Et sauf qu'elles avaient toutes des problèmes. Il y en a une qui se faisait battre par son père. Il y en a une qui s'était fait agresser sexuellement par son père. Il y en a une qui s'était fait toucher par son frère, frapper par sa mère. Et moi, j'étais la psy. Alors, comment dire que ma tête était un puits sans fond? C'était horrible. Et que finalement, moi, je me disais, mais pourquoi je me plains? Parce qu'il y a pire autour de moi. Donc, je m'enfermais à la maison. J'étais en mur face à mes parents, face à mon frère. Et là, ça a commencé. J'ai commencé à manger moins, juste parce que je me sentais mal. Et donc, un soir, j'ai fait une tentative de suicide. Enfin, j'ai essayé. Donc, c'est pas trop... c'était pas à des fins précises, on va dire. Et j'en ai parlé à ma mère le lendemain. Elle m'a emmenée chez le médecin. Le médecin m'a dit, on va aller à l'hôpital tout de suite parce que je te laisse pas comme ça. Et à cette époque-là, je m'étais fait pas mal de mal, que ce soit sur les bras, les scarifications. Elles étaient très violentes, mais pas aussi violentes que ce qui a suivi, parce que du coup, à l'hôpital, on m'a diagnostiqué entre guillemets dépressive, parce que je mets entre guillemets, parce que c'était pas ces termes à ce moment-là, mais je m'en souviens pas parce que je pense que ma mémoire, elle a switché des trucs. Et sauf que j'avais perdu du poids. Et on m'avait dit que c'est parce que j'étais anorexique. Et mais moi, je me dis, c'est quoi ça? Je connais pas. C'est quoi l'anorexie? Donc je me dis, c'est quoi? Et elle me dit, bah écoute, on va te mettre en hôpital psychiatrique. Et moi, j'entends psychiatrique, je me dis, oh, trop chouette! Parce que les gens qui vont en psychiatrie, quand ils ressortent, ils sont super matures. Donc je me dis, trop chouette, comme ça, les gens, ils seront intéressés par moi parce que je serai super mature. C'est la première chose qui m'est venue, c'est pas, non, mince, je vais être enfermée. C'est, oh, trop chouette! Waouh!
Une hospitalisation n'est jamais chouette. Je pense que Lola s'en est vite aperçue. Je me souviens du jour qui a précédé mon internement, à l'unité psychiatrique pour adolescents de Sainte-Croix. Le rendez-vous chez le psychiatre l'après-midi. Il annonce qu'une place est libérée dans son service. Je ne dis rien, je ne proteste pas. Ma mère pleure. Le soir même, nous sommes allés au cinéma en famille. Je me souviens de ce que je portais, une robe orange avec des pierres brodées autour du col. Je me souviens de ne pas avoir suivi le film, avoir serré la main de ma mère, ou c'était plutôt elle qui serrait la mienne. Je me souviens être restée mutique toute la soirée, ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Contrairement à Lola, à aucun moment je n'ai pensé à ce que l'internement allait m'apporter. Il n'y avait pas d'après. J'étais vide, je ne pensais pas. Épuisée de chagrin, tout était lourd. Je pesais 40 kilos, mais tout était lourd. Le lendemain matin, mes parents m'ont déposée à l'hôpital. Ils m'ont accompagnée jusqu'à ma chambre. Une infirmière a ouvert mon sac, sur ce qui allait être mon lit, dans ce qui allait être ma chambre. Elle a vérifié mes affaires. Nous, on regardait, silencieux. Puis les adieux, l'abandon, le déchirement. Un des moments les plus douloureux de ma vie. Et écoutez Lola, c'est revivre un peu ce matin-là.
Et donc j'ai été hospitalisée, le souci c'est que je suis arrivée donc, à 21h, donc j'ai mangé tout ça, je m'en souviens. Là-bas, c'était des tomates avec de la vinaigrette. Et les autres, ils m'ont regardé derrière le mur, en mode normal, parce qu'il y a, nous, il y a quelqu'un de nouveau. Mais sauf que quand on est à la place de la personne qui est seule, c'est horrible. Là, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais dans la merde, parce que mes parents sont partis, ils m'ont enlevé mon doudou parce que j'avais un énorme doudou. J'ai un doudou chien qui fait au moins 1m20, qui est énorme. Ils m'ont dit, tu ne le prends pas. J'ai dit, je dors avec depuis que je suis toute petite. Mais c'est pas possible, vous me l'enlevez, non. Et ils m'ont dit, Lola, tu dois signer un contrat de poids. Je lui ai dit, c'est quoi ce bordel? Je lui ai dit, moi, j'ai pas besoin de reprendre du poids, là. C'est quoi le problème? J'ai besoin qu'on soigne ma tête. Ben non, t'es anorexique. Mais ok, d'accord, mais je suis anorexique, ça veut dire que je suis pas bien dans ma tête, quoi. Et on m'avait pas expliqué ce que c'était l'anorexie. Mais expliquez-moi. Bah non, personne. Donc on m'a dit, Lola, écoute, tant que t'auras pas pris tel kilo, bah tu verras pas tes parents. T'auras pas ton téléphone.
Ok, pas de soucis.
D'accord.
Tu pesais combien à cette époque-là?
J'étais à quoi? Je crois que j'étais descendue à 42. Et il m'avait dit qu'il fallait que je remonte à 47. Et donc, donc mes parents, en fait, donc moi j'avais la chance d'être du côté parking. Parce que les fenêtres, en fait, elles s'ouvraient d'environ 30 cm. Et je pouvais à peine passer ma main, en fait. Et il y avait comme du plastique qui était sur les vitres. Et du coup, on ne pouvait pas nous voir. Et je me souviens, mes parents venaient me voir toutes les semaines. Et ils devaient me faire le change. Sauf que toutes mes affaires étaient fouillées, scrutées.
T'avais pas le droit de les voir, toi, quand
ils... Ah bah non, sinon c'est pas rigolo. Ah non. Et donc, mes affaires étaient scrutées, fouillées. Et sauf que ma mère, elle m'avait mis une fois un papier. « Je t'aime, ma puce, ça va aller. » Dans une chaussette. Ah bah, je me suis fait démonter la gueule, hein. J'avais le droit d'avoir aucun contact avec mes parents parce que mes parents étaient la cause de mon anorexie parce qu'ils m'aimaient trop. Ah, c'était top, hein. Et sauf que, je me souviens, la troisième semaine, parce que la première semaine, j'ai le droit de ni voir mes parents, ni le droit d'avoir mon téléphone. La deuxième semaine, j'ai le droit à un retour entre guillemets à la réalité, c'est-à-dire 30 minutes de téléphone de 19h30 à 20h. Et donc, on n'avait pas le droit d'appeler ni quoi que ce soit, mais moi, je m'en fous, j'appelais en secret, hein. Vraiment, j'en avais rien à faire. J'appelais mes parents. Et je leur écrivais des messages quand eux ils me répondaient, j'avais mes écouteurs, je les avais cachés, on se souvient, dans mes culottes. Ça, c'est primordial, parce qu'ils n'ont jamais fouillé là-dedans, et je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'était super. Et donc je les avais, je mettais mes capuches, enfin ma capuche, ou sinon je mettais ma main sur mon oreille. Et voilà, et donc la troisième semaine, je me souviens que, j'étais en train d'écrire, ou j'étais triste, ou voilà, je sais pas. Et là, je vois ma mère. Oh là là! Là, j'en avais rien à foutre des infirmières, j'en avais rien à foutre. Je mets ma main par la fenêtre, je fais « Maman !» Elle est comme ça, elle regarde de droite à gauche, partout autour d'elle. Et là, elle se dit « Putain, c'est Lola, elle est où ?» Et là, elle voit une toute mini main qui sort de la fenêtre et elle pleure. Et ben moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps aussi. Et en fait, du coup, c'est devenu notre rituel. Sauf qu'une fois, il y a une infirmière qui m'a pris en secret, quoi. Il m'a dit, par contre, là, tu vas te calmer parce que là, on va t'enfermer en chambre d'isolement. Et là, je me suis dit, mais les gars, la chambre d'isolement, c'est pour les fous. La chambre d'isolement, à savoir que c'est quand même réservé pour des personnes qui sont dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres, qui ne savent pas se contrôler et qui ont vraiment besoin d'être au calme. Donc, j'ai abandonné. Mais elle a continué. Je me souviens qu'il y avait même mes grands-parents qui étaient venus au loin. Ils faisaient genre, ils ne me voyaient pas, ils étaient juste assis sur l'arrêt de bus, mais ils me faisaient coucou comme ça. C'était trop chou. Moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps, hein, c'était terrible. Mais donc ça a continué, je commençais à prendre du poids, machin. Donc j'ai commencé à avoir mes premières permissions. Donc des permissions, attention, hein, des permissions de 2 heures, wouhou. Sauf que la première permission, il y avait mon frère, du coup. Il a 4 ans de plus que moi. Et il a remarqué sur mes bras les traces profondes que j'avais sur les bras. Mais c'était infernal, hein. C'était des crevasses, les bordels, vraiment, c'était des crevasses.
Et tu t'es fait avant d'être à l'hôpital?
Ah non.
Quand t'étais à l'hôpital?
Ah oui. Mes pires scarifications étaient à l'hôpital.
Tu faisais ça?
Je vais peut-être pas dire la méthode, mais j'avais des idées assez ingénieuses, hein. Ben moi, j'avais pété les stylos et j'avais utilisé du coup les bouts en plastique, donc ronds, hein. C'est même pas... ça coupe pas. Mais pour dire que j'ai dû y aller quand même... pour me faire une crevasse dans le bras que j'ai encore, bah, que j'aurais des cicatrices à vie. Donc il n'y avait rien de pointu ni rien, donc ça me faisait très très mal. Mais au moins ça me passait ce manque de mes parents, ça me passait ce manque de tout ça. Et donc mon frère, il a vu ça, il me fait « Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait ?» Et donc ils ont appelé. « Oui, notre fille, elle est blessée de partout, c'est quoi ce bordel, machin ?» Ils ont dit « Bah écoutez, c'est son problème. On n'a rien trouvé, elle se démerde. »
La famille ne voyait pas que t'avais des...
Si, hein, mais ils en avaient rien à foutre. Rien. Parce que c'était le moment du Covid en plus. Et donc il y avait peut-être 5 infirmiers pour 12 enfants, dont un qui est arrivé schizophrène.
Un enfant, tu veux dire un jeune?
Un jeune de 16 ans. Mais des fois, il était un peu bizarre, il avait vraiment des spasmes, des gibbons bizarres. Normal, c'est sa patho, logique. Et il m'a menacé avec un couteau à poil. Et moi, je lui disais, mais calme-toi, ça va aller. T'inquiète pas, tout va bien. Et il avait baissé son couteau et il m'avait souri comme Gripsou pouvait sourire. C'était infernal. Et il a commencé à dégringoler. Il avait une capacité à sprinter et à foncer dans les portes à se taper la tête contre la porte, contre le sol, contre le carrelage, contre les tables, contre tout. Et je me souviens, une fois, il avait pété un câble. Et les infirmières, elles nous avaient crié « Allez toutes dans vos chambres, barricadez-vous !» Et il allait en chambre d'isolement. Ma chambre était à côté, la chambre d'isolement. Ça tapait comme ça, toute la nuit. Et ça criait, 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 criait. « Tuez-moi, je vais vous tuer, vous êtes nuls, bande de connards vous... !» C'est impressionnant. Et tout le temps, des menaces de mort avec ça, qui crie. Et c'était des cris, mais stridents, comme dignes d'un film d'horreur. C'était infernal. Et j'ai eu ça pendant un mois et demi. Mes parents ne l'ont jamais su. Aujourd'hui, ils le savent, j'en ai parlé après. Et donc, j'ai continué à me faire du mal, parce que c'était la seule chose qui me faisait, entre guillemets, du bien. Parce que je me dis, soigne le mal par le mal. Si tu as mal, tu penseras moins au mal qu'il y a avant. Sauf qu'une fois, c'était le jour de ma pesée, la dame, elle me dit, alors, t'es une baleine, hein ? T'es une grosse baleine, hein ?
Qui dit ça ?
Une infirmière. Elle me dit ça. Et moi, j'étais toujours pas dans ce truc d'anorexie. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit, là ? Je comprends rien. Elle veut que je reprenne du poids, je reprends du poids. Moi, je m'en fous, enfin, de ce à quoi je ressemble. Sauf que, dans sa tête, je sais pas pourquoi, j'étais anorexique à fond les marrons. Et moi, j'ai dit, bah non, enfin, je sais pas, je suis normale, quoi. Genre, j'ai repris du poids, c'est normal. Et elle me dit, bah alors, on est une grosse baleine. Et en plus, on a plein de traces, dis donc. Je lui dis, pardon. Elle me dit, bah oui, là. Au niveau de ta poitrine, tu fais quoi ? Et en fait, au centre de ma poitrine, j'avais des énormes griffures de tigre, limite, que j'avais encore fait de nouveau avec ce stylo. Mais c'était... je pense que j'aurais pu carrément avoir des points de suture tellement c'était grave. Elle m'a dit, bah dis donc, t'aurais pu perdre ton sein gauche. Ça te dérange pas de perdre ton sein gauche ? Bah non. Hein, ma petite baleine ? Et là, moi, je me dis, mais je vais la démarrer, c'est pas possible. Et donc, j'ai laissé passer. Et ça a continué. Ensuite, la cheville, le machin. Et un jour, j'ai eu une permission avec mon frère, mon père et ma mère encore. Mon frère l'a vu, il m'a dit, Lola, tu me fais la promesse de jamais recommencer. J'ai tenu cette promesse depuis la CPU. J'ai jamais, 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 jamais recommencé de toute ma vie. Parce que mon frère m'a demandé de le faire. Même si c'était la pire chose du monde, parce que c'était des, entre guillemets, des bons souvenirs, les seuls bons souvenirs de la CPU, parce que...
De quoi, quand tu te faisais du mal ? Ouais.
Parce que il y avait tellement tout qui était noir que c'était rien à côté. Rien. Après, mes bons souvenirs, j'en avais quand même parce qu'on faisait des jeux. Et, enfin, je me souviens avec les filles. Moi, j'avais dit, venez ce soir, on se fait une petite journée flop maquillage. Donc, moi, j'avais tout mon maquillage. J'étais la seule qui se maquillait là-bas. Et donc, je maquillais tout le monde et on s'était habillés avec des habits mais terriblement moches. On avait fait un défilé devant les infirmières. Elles étaient mortes de rire. Mais après, elles nous avaient engueulé parce qu'il était l'heure d'aller prendre le tertian pour se shooter la gueule et qu'on les laisse tranquilles.
Le tertian, c'est quoi ?
Le tertian, c'est un anxiolytique qui est très puissant. Après, ça dépend des personnes, je pense aussi. Mais en tout cas, voilà. Et donc ça, il y a quand même des bons souvenirs de ce côté-là. Mais par contre, il y avait de la grosse jalousie, hein, dans le sens où, par exemple, si moi, j'avais pris du poids ou pas pris du poids, et si une autre avait pris du poids ou pas pris du poids, qui était anorexique aussi, ben, à chaque fois, des fois, je la prenais en garde, elle était en train de se regarder dans le miroir, voir si son ventre avait grossi. Et moi, je dis, mais regarde le mien et tout. Donc en fait, on comparait nos bides pour que je la dédramatise. Et moi, j'en avais rien à faire, puisque je m'en foutais de mon bide. Enfin, vraiment... Donc voilà, elle était contente, sauf qu'elle me dit « Oui, moi, ça fait 6 mois que je suis sondée, ça fait 3 mois que je suis ici, j'en ai marre, tu pars avant moi. » Donc il y a cette culpabilité qui était là, constante.
Et t'as été sondée, toi ou...
Ah non, j'étais pas là-dedans, moi, hein, vraiment. C'était vraiment un poids qui était acceptable. Et donc je suis sortie de la CPU, je suis retournée au lycée.
T'es restée combien de temps ?
2 mois et demi.
Deux mois et demi, c'est aussi le temps que je suis restée la première fois. Lola parle vite, elle ne reprend pas son souffle, moi non plus. Je traverse son passé et le mien, en accéléré, des flashs. La chambre au mur jaune, le petit lit de place, les draps blancs. Le sol en lino sous mes pieds le matin, ça colle, la peau poisse, c'était la canicule. J'avais pu garder mon doudou, contrairement à Lola. Je le serrais fort chaque nuit. Les fenêtres fermées à clé. Pour pouvoir aérer la chambre, les infirmières nous demandaient de sortir. La salle commune, avec la table où l'on prenait nos repas. Odeur d'hôpital. Un mélange de désinfectant et de nourriture. Le pain trempé dans les hautes natures, comme unique plaisir. quand Lola me raconte la jalousie entre les filles. Je revois ma camarade de chambre qui inversait discrètement les pains sur nos plateaux pour que j'aie le plus gros. Parce que ça l'a rassurée de savoir que je mangerais plus qu'elle. Je la laissais faire. Cette maladie est terrifiante.
Après, quand je suis sortie de la CPU, du coup, je suis retournée au lycée. Parce que du coup, mon hospice, c'était quand j'étais en seconde. Et j'avais mon cercle d'amis, tout ça, hein, c'est trop cool. Je me souviens que mes amis avaient appelé partout pour me retrouver. Elles m'ont jamais retrouvée. Elles avaient même appelé mes parents et tout. Et quand je suis rentrée, j'étais contente de me voir. Bon, ça a vite dégringolé. Hein, parce que j'ai commencé à plus rien manger, à me renseigner sur l'anorexie, à comprendre ce que c'était, que c'était un trouble du comportement alimentaire. Et qu'en fait, il fallait manger le moins possible. Du coup, bah, moi, j'ai commencé à bouffer que des noix. Mais que des noix et des pâtisseries. Parce que j'avais pas cette connaissance des calories, j'avais pas cette connaissance de l'hyperactivité du tout, en fait. Moi, je connaissais juste le fait qu'il faut manger moins, super. Mais j'avais pas envie de manger de la salade, hein, j'aimais pas ça. Donc je mangeais plein de noix et plein de pâtisseries. Et je pense que c'est ça qui m'a tenue à un poids, donc j'avais passé la barre des 40, j'étais en dessous. Et c'est ça qui m'a tenue, en fait, pendant 6 mois. C'est parce que les noix, c'est quand même assez énergique, donc c'est bien. C'est bon pour la santé et tout, il y a des bons lipides, machin. Et les pâtisseries, bah, c'est pareil, il y a un peu de glucides, donc ça peut toujours tenir. Sauf que bah, à un moment donné, j'ai commencé à perdre du poids, et j'ai découvert ce que c'était les calories.
Tu trouvais où les infos ?
Bah, sur les réseaux. Hein.
Les réseaux ?
Ah ouais, c'est la pire merde, les réseaux. En fait, les réseaux, c'est bien, mais quand c'est du bon côté. Parce qu'en fait, si on tombe dans le... Parce que là, en ce moment, là, en 2025, il y a le putain de skinny talk qui revient, là. Le skinny talk, c'est... En fait, c'est les meufs ou les mecs, mais beaucoup de meufs, qui prônent l'anorexie. C'est-à-dire, soyez le plus maigre possible, vous serez trop beau, vous serez heureux, mangez 3 concombres et 1 œuf le matin. Et donc, le skinny talk, c'était à l'époque où j'avais découvert les calories. Et je comprenais rien, mais j'avais juste compris qu'il fallait qu'il y en ait le moins possible. Voilà, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je ne savais pas ce que c'était, par exemple, un métabolisme de base. Je ne savais pas que notre cœur avait besoin de 200 calories, notre cerveau 300, notre rein 400. Enfin, pour moi, je n'avais aucune connaissance de ça. Et donc, j'ai commencé à manger le moins, et j'ai commencé à compter toutes mes calories via une appli. Et j'avais vu une diète à ce moment-là, elle m'avait dit « Oui, il faut que tu mettes un peu de protéines, un peu de machin », donc je le faisais. Mais je mettais les trucs les moins caloriques possibles. Donc je finissais avec des assiettes énormes, mais à 90 calories, quoi. Donc je mettais des asperges, des concombres, des machins, des trucs. Je mettais un petit peu de crevettes pour que ça satisfasse ma diététicienne. J'ai mangé pratiquement plus rien, j'étais faible, j'ai perdu toute ma masse carrément. Et je suis descendue sur un poids mais infernal au point de passer à côté de la mort une nuit.
Combien ?
28 pour 1m70.
28 kilos ?
Ouais. J'étais à 2 kilos de pouvoir plus prendre de Doliprane. Je m'en souviens, je l'avais dit à ma mère, je dis « Maman, regarde sur la boîte de Doliprane, il est marqué que c'est pour des enfants de tel ou tel kilo ». Elle regarde la boîte, ah oui, en dessous de 26 kilos, on ne peut plus prendre de Doliprane. Alors ma mère, ça ne l'a pas fait rire. Hein.
Tes parents, ils vivaient comment, le fait de te voir maigrir comme ça ?
Déjà, mon frère, il a dû partir de la maison. Il ne supportait plus. Il ne supportait plus tout ça. Et mon père était impuissant. Parce que mon père, c'est la bouffe, c'était sa vie. Hein. Ma mère, elle faisait de son mieux, mais elle était épuisée, en fait. Je me souviens jusqu'à les 3 heures du matin. Je mangeais des énormes porridge. Enfin, je mettais peut-être 20 grammes de porridge pour au moins, je sais pas, 300 ml d'eau. Et je le laissais gonfler. Donc il y avait plein d'amidon qui ressortait. Et je passais au moins 3 heures à les manger. Et j'aimais pas, mais je mangeais. Et c'était mon seul moment où je me disais, vas-y, t'as plein de trucs à manger. En fait, non, je mangeais beaucoup de ça, en fait. C'est un peu comme de la gélatine. C'est vraiment dégueulasse. Et pareil, j'ai commencé à commander sur des sites comme, je sais pas, Prozis par exemple. Prozis, c'est un site qui est très bien. Mais il ne faut pas se diriger vers le mauvais côté de Prozis. Parce que Prozis, par exemple, il y a des Yumi Drops, c'est des sucrants, pas très bons pour la santé. Moi, en fait, bah, j'en foutais partout, parce que ça avait du goût. Et moi, bah, je ne mangeais plus rien avec du goût, quoi. Ou si je salais beaucoup. Moi, je passais mon temps à mettre du sel partout. Du sel, parce que le sel, ça avait du goût. Le sel, ça faisait de la rétention d'eau. Le sel, ça faisait monter le poids.
En fait, tu te documentais vachement, tu passes.
Ah, mais moi, j'étais un robot, hein. Parce que moi, j'aime bien comprendre les choses. Donc, je suis allée, en fait, dans l'extrême de l'extrême, au point de, bah, comme je t'ai dit, un soir, j'ai dit à mes parents, papa, maman, faut que je sois hospitalisée. Donc, je me souviens qu'on a pris une photo. On aurait dit un cadavre des camps de concentration. J'avais juste des dents, en fait. J'avais les yeux qui sortaient des orbites parce que bah forcément, il n'y a plus de gras du tout. J'étais plus Lola, j'étais juste un truc. Ah oui, mon frère, il m'avait dit, je ressemblais à un phasme. Tu vois pas ce que c'est un phasme ? C'est un animal qui ressemble à un bout de bois. Tout fin. Et il n'y a vraiment rien sur les os. Ça m'a fait très mal. Du coup, je me suis fait hospitaliser.
T'avais quel âge ?
Là, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Donc 16 ans, 17 peut-être. J'ai fêté mes 17 à l'hôpital. Oui. Oui, j'ai fêté mes 17 ans à l'hôpital. Et donc j'ai demandé à y aller. Et mes parents m'ont dit, ok, mais le souci, c'est qu'il n'y avait pas de place avant demain. Et là, je leur dis, les gars, si vous ne m'emmenez pas tout de suite, je crève. Et sauf qu'ils n'ont pas pu m'emmener. Donc je suis restée toute la nuit. Ma mère, elle avait fini par dormir avec moi le dernier mois. Parce qu'elle avait peur que je meure, en fait, constamment. Mais mes jambes, c'était des os.
Tu pouvais marcher ?
Je pouvais marcher, mais grâce à ma tête. Mon corps, il répondait plus de rien. Je me souviens que j'avais fini par porter mes jambes. Quand je me levais dans le canapé, quand je me levais dans le lit, je portais mes jambes tellement elles étaient lourdes. Et donc, ce soir-là, bah, j'ai dit à ma mère, « Maman, je me sens pas trop bien. » Elle me dit, « Mais t'inquiète, va te coucher, machin. Tu veux que je dorme avec toi ?» Je fais, « Non, c'est bon. » Et vers 3h45 du matin, j'ai quitté mon corps. Vraiment, mon cerveau, il a fait bye-bye. Je me suis vraiment dédoublée, on va dire ça comme ça, et j'ai commencé à flotter. J'ai vu mon corps et je me suis dit non, non, non. Et je me suis rattrapée, je sais pas comment, c'est très bizarre. Enfin. Et le lendemain, j'ai dit à mes parents, on y va tout de suite, on n'attend pas demain. Donc, on y allait.
Je visualise Lola flotter au-dessus de son corps, si maigre, fragile. Faire passer les douleurs de son crâne à sa peau. Sa peau si fine. Les veines qui dessinent des rivières bleues. Puis les douleurs s'envolent elles aussi. Jusqu'à ce que Lola les rattrape et décide de les affronter. De retourner à l'hôpital. L'anorexie mentale est la maladie psychiatrique ayant le taux de mortalité le plus élevé. Elle se déclenche le plus souvent entre 14 et 17 ans. À terme, la moitié des personnes soignées à l'adolescence guérissent. Un tiers voit son état s'améliorer. 21% souffrent de troubles chroniques et 5 à 6% décèdent. La mortalité est maximale l'année qui suit la sortie d'hospitalisation des patientes. Elle est due aux complications somatiques, dans plus de la moitié des cas, le plus souvent un arrêt cardiaque, à un suicide dans 27% des cas. Le taux de suicide associé à l'anorexie est le plus important de toutes les maladies psychiatriques. Lola aurait pu mourir cette nuit-là, mais elle a choisi la vie.
Et donc l'hôpital, c'était compliqué pour moi au début parce que bah, je mangeais rien. Et un soir, j'en avais marre. Il m'avait sondé le lendemain, du coup j'étais super contente. Hein. Moi j'étais ravie. Il comprenait pas que j'étais contente d'être sondée.
Pourquoi t'étais contente d'être sondée ?
Mais parce que moi je pouvais pas mourir. Je voulais pas mourir, moi je voulais plus mourir. Et donc je savais que si j'étais sondée, j'avais au moins un peu de nourriture et j'avais de l'énergie pour mes organes, pour mon cœur, pour tout ça. Surtout pour mon cœur en fait, parce que mon cœur je le sentais plus battre à un moment donné. Et donc je me souviens, il y a un soir, j'ai mangé, il y avait du melon, il y avait quoi ? Il y avait des lasagnes avec des pâtes ou je sais plus quoi. Et j'ai commencé à bouffer le melon, parce que je savais que c'était pas calorique le melon. J'avais la dalle. Et là je me suis dit, mais putain, mais pourquoi tu t'empêches de manger ? Il y a quoi qui t'empêche de manger ? Bah rien. Et du moment où je me suis dit rien, j'ai mangé tout mon plateau. Et là, ça a suivi. Tous les jours, je mangeais mon plateau. Et il croyait que du coup, je vomissais. Parce qu'il me dit, je sais pas, t'es anorexique, pourquoi tu manges tout ? Et encore là, on rentre pas dans les cases. Encore là, on comprend pas. Tu ne bois pas de coca zéro, tu manges pas de chewing-gum, tu manges pas de pommes, tu fais pas d'hyperactivité. Enfin, c'est bizarre quand même, non ? T'es sûr ? T'es sûr que tu nous mens pas ? Ils m'ont dit, de toute façon, tu vas rester là 9 mois. Moi, j'aurais dit non, je reste là 2 mois. On me dit non, t'as 15 kilos à reprendre. Ou 10, je sais plus. Mais tu vas rester là 9 mois, on te le dit. Mais moi, je dis non, je vais rester là 2 mois. Je suis restée 2 mois. Pas un jour de plus. Voilà.
Parce que t'as repris ton poids ou...
Parce que j'ai repris mon poids. Le souci, c'est que à l'hôpital, on nous renutrit. On nous guérit pas. Et moi, je suis ressortie de l'hôpital. J'ai reperdu beaucoup de poids. C'était il y a 2 ans. Et le souci, c'est que J'ai dû retourner au lycée, je suis arrivée déjà un peu en retard, j'ai changé de filière parce que mon cercle amical, plus personne ne m'a soutenue à part une seule personne, qui aujourd'hui est encore là, hein, c'est vraiment, elle est adorable. Mais du coup, j'ai redoublé ma première et je suis partie dans un lycée de techno, en STSS. Donc là, c'était tout ce qui était biologie, j'avais besoin de comprendre le corps. Comment est-ce que le corps gérait l'alimentation, tout ça, tout ça. C'était surtout cette dimension alimentaire qui m'intéressait parce que j'avais besoin de comprendre. Et donc, j'ai commencé à me faire un petit groupe d'amis. Et je me souviens, j'avais repris pas mal de poids. Enfin, j'avais reperdu beaucoup de poids. J'étais redescendue à 34, 33, je ne sais plus. Après, j'étais remontée à 35. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic en mars. J'ai dit à mes parents, ça y est, je ne l'entends plus. Je n'entendais plus la voix de la maladie. Elle était dehors. Elle tapait à côté, mais je ne l'entendais plus. Comme si j'avais une manière de fermer en fait, les volets. Et donc, des fois, elle était là, elle tapait. Donc, des fois, je l'écoutais un peu, mais en fait, j'en avais marre. Du coup, je l'écoutais plus.
C'est quoi, la maladie ?
Je sais pas. Ça, c'est trop calorique. Il faut que tu montes les escaliers. Il faut que tu fasses ci. T'es nul. Surtout, t'es nul, en fait. Parce qu'au-delà de la nourriture, au-delà de la dimension alimentaire, c'est surtout la confiance en soi qui est détruite. Parce qu'en fait, la maladie, elle te dit juste que t'es une sous-merde, que tu ne vaux rien, que tu ne mérites pas l'amour des gens, que tu ne mérites pas de vivre, tu ne mérites pas qui tu es, ce que tu as dans la vie. Et que vivre, ce sera juste un calvaire pour toi comme pour les autres. Voilà, que t'apporteras jamais rien au monde. Donc là, comment dire que les pensées suicidaires sont quand même bien là, hein ? Donc c'est quand même assez chaud. Mais en fait, je sais pas, la porte, elle s'est fermée. J'ai une photo dans mon téléphone, je me souviens. J'ai un sourire, mais fantastique, avec des larmes qui sont plus précieuses les unes que les autres. Avec mon père qui pleure, ma mère qui pleure. C'était le monde des pleurs. Et ça a été impressionnant parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à tout bouffer. Je mangeais des barres de céréales protéinées à... Je sais pas, je me sens... Maman, regarde, celle-là, elle a 300 calories. Et ben, elle a dans le cul, je la mange. J'en mangeais 3, j'en mangeais 4, j'en mangeais 5. Sauf qu'à un moment donné, j'en pouvais plus parce que j'en mangeais, j'avais peur. Et j'ai commencé à me renseigner sur la faim extrême, je comprenais rien. J'ai compris que c'était une phase qui était obligatoire, apparemment. Il y en a qui passent pas par ça, mais il y en a qui passent par la faim extrême. Et ma mère, elle dit, mais Lola, tu te souviens, t'as tourné pendant un an à 360 calories par jour. Donc forcément, t'as des calories à rattraper, c'est normal. Et donc j'ai accepté ça pendant un moment, j'ai repris, je crois que j'étais à 39. J'ai failli passer la barre des 40, j'étais trop contente. Et donc, j'ai eu mon bac de français, ça c'est très très fier de moi, parce que c'était un goal que j'avais. Pour me dire, ça y est, je m'en sors un peu. Je suis partie en vacances avec mes parents, c'était chouette. J'ai mangé un burger, j'étais super contente. J'ai commencé à remanger de la viande, ce que j'avais arrêté. Pas pour cause de la maladie, pour cause animale, mais je me suis rendu compte que mon corps avait besoin de viande. Parce que du coup, à savoir qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais j'ai continué mon année de terminale dans mon lycée. Il n'y avait plus du tout mes amis. J'étais toute seule avec mon copain, entre guillemets. Et en fait, mon copain me disait, bah dis donc... T'inquiète pas, même comme ça, je t'aime, hein, c'est pas grave. Hein. Oh bah tu vas t'envoler. Hein. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il m'a ouvert les yeux. Il n'arrêtait pas de me rabaisser, constamment. J'ai quitté du coup en début d'année. Je me suis retrouvée toute seule, mais toute seule. Personne ne s'intéressait à moi. J'ai essayé de faire la conversation, je suis super sociable comme personne. Hein. Je suis intéressante et tout, j'avais vraiment envie d'y aller. Et en plus, à ce moment-là, j'avais commencé mon compte de chronique. Parce que du coup, je fais des chroniques littéraires. Et donc quand j'en parlais à mon copain, il me dit « Non, mais t'es nulle et tout, t'y arriveras jamais. » Donc, c'est bon, stop, arrête de me rabaisser. Et donc ça m'a tenue parce que j'étais tellement seule au lycée que je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'avait déjà sauvé la lecture hein, à la CPU et à l'Hospit, la deuxième fois. Enfin, Les Demoiselles, il y a le livre Les Demoiselles, alors je ne sais plus de qui c'est. Mais ça parle d'une dame espagnole qui va dans une usine et elle s'émancipe parce que sa sœur, elle est morte. Et elle se retrouve toute seule et elle s'émancipe dans un autre pays. Elle apprend, elle grandit, elle évolue. Et ça, c'est impressionnant parce que je m'en souviens très très peu, mais il reste dans mon esprit quand même, donc j'aimerais bien le relire aujourd'hui parce que je pense que ça a été un gros déclic pour moi. Et donc la lecture, je savais que ça allait être mon truc. Et donc ça me sauvait parce qu'au lycée, j'étais toute seule, et une fois en maths, alors je me souviens, c'était terrible, j'avais pris en photo, hein, tellement ça m'a traumatisée. Mes parents, ils en pouvaient plus parce que je revenais déjà depuis un mois en pleurs. Mes parents, mais non, fais des efforts, tu dois mal comprendre, il y a des quiproquos, ouvre-toi un peu à eux, t'es enfermée, machin. Sauf que c'est pas du tout le cas, parce que je suis rentrée en maths, tout le monde s'est installé, moi je lisais ou j'étais sur mon téléphone. Je m'assois, je me retourne pour demander une règle à personne. Ils étaient tous à gauche, et toute la colonne derrière moi, donc de 5 places, 6 places, était vide. J'étais seule, sur le côté. J'ai essayé de le prendre à la rigolade, parce que je pense que dans ces moments-là, t'as juste envie de te buter, vraiment. Et je dis à mes parents, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc moi, j'ai commencé à m'enfermer sur moi, à plus faire d'efforts avec personne. Et un jour, il y a le délégué qui vient me voir. Je dis, t'as un truc à me dire ? Il me dit, ouais, apparemment et tout, tu te sens seule. Alors là, moi, je me suis dit, ok, c'est mon moment, it's the moment, vas-y, dis tout. Et là, je lui dis, ouais, je me sens seule, personne ne me parle, personne ne s'intéresse à moi, mais je fais les efforts pour tout le monde. J'ai tout déballé. Ils me regardaient tous, hein. Il y avait un gros blanc. Je lui ai cloué le bec, je me suis barrée, je suis allée chez le CPE, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ils ont appelé mon père. Mon père, il a dit, ma fille ne reviendra plus au lycée, c'est mort. Et là, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, non, mais papa, arrête, tu t'emportes et tout, ça va pas du tout. Quand il est arrivé, je lui ai dit, non, je veux pas. Après, je pourrais plus parler à personne et tout, je serai encore plus seule, machin. Ah, parce que tu veux rester au lycée, Lola, peut-être. Et c'est là qu'en fait, on s'est dit, non, faut t'aille au CNED. Le CNED, c'est la seule solution. Tu t'es organisée, tu pourras travailler toi, toute seule. Et donc, dans un premier temps, ça a été très compliqué parce que le CNED, du coup, j'ai arrêté les cours en novembre. J'ai essayé de poursuivre, les profs auraient dû m'envoyer. J'ai jamais rien eu. Et donc là, ça a redégringolé. Pas au niveau de l'anorexie, c'est que j'étais tellement stressée que tout le poids que j'avais pris, je l'ai reperdu. Tout est tombé. Tout. Passer au-dessus de la maladie, passer au-dessus des calories, passer au-dessus de l'hyperactivité, passer au-dessus... Tout est parti. Tout. Et donc, ça m'a bousillée. Et donc, bah, forcément, tu reperds du poids. Les gens, ils croient que ça y est, tu redeviens anorexique. Mais c'est pas parce que t'as un poids normal que t'es plus anorexique. L'anorexie, c'est une maladie mentale. C'est la maladie la plus mortelle du monde. Il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes, voire même simplement de femmes et d'hommes qui en meurent chaque année. Et sauf qu'il n'y a pas de choses qui sont mises en place parce qu'on dit que c'est un caprice. Mais non, juste écouter les gens. On a le droit aussi d'aller mal, comme toute personne, sauf que nous, on n'a plus de réserve. On n'a pas de réserve quand on essaie de reprendre du poids, qu'on est déjà très maigre, très fin, on tombe malade, on perd du poids direct. Mais on n'est pas comme tout le monde parce qu'on n'a pas un poids dit « normal ». Alors que finalement, normal, ça veut rien dire quand même. Donc en fait, juste quand on va mal et qu'on perd du poids, quand on va mal et quand on est pâle de peau, bah directement, non mais ça y est, elle est redevenue anorexique, c'est la catastrophe.
Je me souviens que je touchais mon torse, que j'étais rassurée de sentir mes os. Je voulais faire disparaître mes formes. Je voulais disparaître. J'étais agrippée à l'enfance, à la pureté, maigre comme la pluie. Et la pluie ne cessait de couler en moi. Rivière triste et froide, je laissais aller. L'anorexie comme meilleur ennemi. Elle aide à survivre à la douleur, et elle devient la douleur. Lola me parle d'une voix dans sa tête. C'est un peu ça, le contrôle du corps. Lola connaît par cœur le fonctionnement des organes, les besoins nutritifs de chacun, le nombre de calories de chaque aliment. Le cerveau comme une calculette. Elle ne s'arrête jamais de compter. Ne pas lâcher prise. Ne surtout pas lâcher prise. Parfois, le cœur cède avant l'esprit. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point cette maladie est éprouvante, dangereuse et complexe. Lola permettra, je l'espère, de faire entrevoir et ressentir, à ceux qui l'écouteront, l'enfer de l'anorexie.
Mais il y a un moment donné, je me souviens, j'avais découvert que je pouvais manger des trucs et les recracher, juste pour avoir le goût dans la bouche en fait. Et je me dis, ah ouais, c'est cool, comme ça je prends pas de poids. Et donc je passais des heures et des heures à manger, à cracher.
Tu vomissais ou tu crachais ?
Ah non, mais moi je déteste le vomi, j'ai la phobie du vomi, hein, je suis hémétophobe, c'est affreux, j'ai jamais vomi, hein, jamais. Mais je me souviens, je mangeais, je crachais, et c'était il y a un peu plus de 8 mois, je crois, donc c'est quand même il n'y a pas si loin que ça, parce que j'étais mal. Donc ce besoin de remplir, mais aussi ce besoin de pas prendre de poids. Et ça, je sais pas, enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Et moi, je me suis un peu retrouvée seule face à ça parce que je me dis, mais personne fait ça. Je suis la seule qui faisait ça à ce moment-là. Donc, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai jamais rien trouvé dessus. Et donc, je trouve qu'on n'est pas du tout à l'écoute des jeunes de ce côté-là. Parce que, ok, on a les bases de l'anorexie, les agressions sexuelles, harcèlement, la famille qui aime trop, la famille qui est délaissée, un décès, des attaques sur le physique, un mal-être physique. Mais il y a autre chose que ça, en fait. L'anorexie, surtout un mal-être intérieur qu'on ne peut pas exprimer et que du coup, on cherche à exprimer par la nourriture, par le corps.
Ce qui t'a fait tomber là-dedans, ce mal-être, il y avait une cause ou quelque chose ou c'est juste un...
Non, je pense que c'est une accumulation de beaucoup de choses. Entre les personnes qui avaient des soucis, moi, je me disais que je ne méritais pas tout ça. Je me suis renfermée dans le sport. Après, j'ai commencé à me dire que j'étais pas assez musclée. Je voulais plaire aux gens. Je voulais être gentille. Je voulais être cultivée. Je voulais être pas moi. Et donc, je me suis perdue dans tout ça. Et forcément, ça a créé un énorme mal-être parce que je me reconnaissais plus. Je savais plus ce que je voulais. J'avais plus qui c'était. J'avais plus qui j'étais. Je savais plus ce que j'aimais. Et pour certains, c'est simplement un caprice. Ça peut se régler. Il faudrait juste essayer de gérer ça. Mais gérer des émotions, est-ce qu'on nous a appris à l'école à gérer des émotions? Non. Donc bon, on fait comme on peut. Sauf que des fois, ces émotions, elles prennent le dessus et elles contrôlent notre corps et ça peut engendrer des conséquences affreuses comme ces troubles-là. Moi, je suis plus dans le déni de la maladie depuis très longtemps, mais le mot qui revient tout le temps, c'est l'acceptation. Et faut l'accepter, accepter de manger plus, accepter d'être dans le malaise, accepter d'être dans l'inconfort alimentaire, accepter d'être dans l'inconfort physique, tout simplement. Et accepter d'être dans l'inconfort du regard des autres aussi, et dans son propre regard, parce que je pense que son propre regard est le pire de tous. Ah, moi, je me tabasse, hein. En fait, c'est que quand j'ai pas des... Quand j'ai un pantalon qui est assez serré ou autre, bah là, je vois mes jambes de phasme, je vois ma toute petite tête, je vois tout ça, je me sens mal, je me dis, putain, je suis moche. Bref, c'est infernal. Et je me souviens une fois au champ, j'avais croisé une ancienne fille dans laquelle j'étais dans mon premier lycée. J'ai fui. Je suis arrivée dans ma mère, je me suis décomposée en pleurant. Elle m'a dit, mais Lola, t'as pas à avoir honte et tout, t'as fait du chemin, machin. Et en fait, c'est que moi, je suis la première à dire oui, mais ma tête va mieux. Mais en fait, dans ces moments-là, je vois que mon corps. Et donc, accepter que mon corps est maigre et moche, j'y arrive pas. Accepter de prendre du poids, j'y arrive pas. Accepter de manger plus, je sais, mais j'y arrive pas. Et donc, en fait, c'est quoi le mot? Accepter. Et donc là, je suis en train de toucher le bout. Parce que après l'acceptation, il y a quoi? Bah, il y a Lola, c'est tout. Accepter d'être qui je suis, c'est tout. Donc je pense que là, je travaille beaucoup dessus en ce moment. Et je sens que ça se décante. Je sens que je me sens mieux, je suis plus posée, je suis bien. Mais c'est super dur. Là, ça va faire quoi? 4-5 ans, bientôt. Et j'en suis pas encore sortie. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait, c'est pas une question d'alimentation. C'est une question d'accepter. Et moi, j'accepte pas mon alimentation. J'accepte pas de manger mieux parce que je m'accepte pas moi totalement encore.
Tu pèses combien?
Je me suis pas pesée, je pourrais même pas te dire. Parce que je vais chez le médecin, elle me pèse en général et moi je m'en fous parce que je me fie à mes sensations. Elle me dit juste que mon cœur va bien et que ma tension va super bien. Et le reste, bah, c'est elle qui regarde parce que je m'en fous. Parce que pour moi, si on dépend d'un chiffre, la vie elle vaut pas le coup.
T'as pas peur de remonter sur la balance? Enfin, de voir combien tu pèses?
Non.
Non?
Non. Par contre, j'ai peur de descendre. J'ai peur de descendre, c'est sûr. Ça, les redescendre, bah, c'est avoir mal aux fesses parce que nos os y ressortent, être fatigué, avoir les cheveux qui tombent. Enfin, c'est tout ça. Donc, il y a la peur, effectivement, de reperdre, mais il y a la peur aussi de grossir. Donc, forcément, là, bah, avec les beaux jours, c'est compliqué parce que quand on est maigre, et bah, s'habiller, c'est compliqué parce qu'il y a le regard des gens. Il y a son propre regard, je pense, qui est encore pire. Parce qu'on se dit, si je mets ça, les gens vont dire que je suis maigre, mais est-ce que moi, je me trouve jolie? Non. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a cette ambivalence entre je veux retrouver un corps qui me plaît. Et moi, j'ai dit à ma mère l'autre fois, je dis, maman, est-ce qu'un jour tu penses que je retrouverai un corps qui me plaira? Elle me dit, oui, il faut que tu prennes du poids. Sauf que bah, moi, il y a cette dimension anorexique qui est là et qui me bousille la vie tout le temps. C'est mange ça, attention les calories, mais tu dois manger plus, donc mange plus, mais ça suffit parce que t'as pas trop faim. Ou sinon, t'as très faim, mange ce qui te fait plaisir et t'es calé. Et le souci, c'est quand tu es calé, je peux plus manger à côté. Après, les gens ils diront, mais si tu peux toujours manger à côté, c'est une question de volonté. Oui, je suis d'accord. Sauf que là, je ne suis pas courageuse sur ce côté-là. Parce que tout le courage que j'ai mis dans mes notes, dans le CNED, dans le fait d'aller au sport, dans le fait d'être sociable avec les gens, de continuer de sortir, de m'occuper aussi de ce que j'aime, donc mes chroniques, de faire des connaissances. Bah là, aujourd'hui, j'ai deux auteurs avec qui je m'entends extrêmement bien, même trois et quatre, mais il y en a surtout deux avec qui je suis très proche. Et on s'est fait un visio la dernière fois, je n'avais pas parlé à quelqu'un depuis 5 mois. Ça m'a fait un bien fou, j'avais l'impression d'être avec des copines, et elles ont quel âge? Elles ont 30 ans. C'est là que je me dis qu'en fait, je suis bien plus à l'aise avec des personnes plus mûres que moi, parce qu'on ne voit pas que sur l'apparence. Et donc, bah là, je pars bientôt, parce que je pars en PUT métier du livre et du patrimoine, il n'y en a pas à Tours, je partirai dans mon appartement, et je ressens ce truc de me dire, je serai seule avec ma guérison. Ma tête va bien. Mon corps n'arrive pas à suivre. parce qu'il y a tellement de choses autour aujourd'hui. Mes parents, tout le temps, ils sont bienveillants. Mais par exemple, mon père me dit « Putain, mais tu te rends compte, notre fille, elle s'est mise au CNED, elle a tout fait, elle a des super notes, machin. Et elle a encore perdu du poids, machin. » Tu vois cette dimension tout le temps, de perdre du poids. Voilà, comme mon père, il sort des steaks l'autre fois, il me dit « Ouais, Lola, je t'en sors pas, hein, du coup. Ben, » Moi, je me suis énervée, en fait. Je me suis dit « Mais c'est bon, stop. Mais pourquoi tu veux pas m'en sortir? Je la mange pas, on s'en fout. Mais sors-la-moi, à un moment donné, c'est bon. » Je dis, mais pourquoi tout le temps tu fais ça? Pourquoi? Il me dit, mais non, j'ai des mécanismes. Je fais, mais je m'en fous de tes mécanismes. C'est pour ça.
On te ramène toujours à la maladie.
Ouais. Et le souci, c'est que mon père, à ses yeux, il a. Alors, ce que je fais avec mes chroniques, il est impressionné. Mais il n'exprime jamais. Il y a encore plein de petites choses comme ça sur lesquelles il faut travailler. Mais je ne peux pas les travailler à la maison. Parce que je suis tout le temps rappelée à l'ordre. Tout le temps. Tout le temps. Et donc, le fait d'avoir mon appart, c'est prendre son indépendance. Et c'est important pour moi, parce que mes parents, ils ont voulu que je parte au ski avec eux et mon frère, il y a les vacances dernières, donc c'était 4-5 semaines, je crois. Je leur ai dit non, je restais à la maison. Je suis restée à la maison toute seule pendant une semaine. La première soirée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me sentais abandonnée, nulle, tout ce que tu veux. Et le lendemain, je suis allée à tous mes rendez-vous pour me faire enlever les dents de sagesse, pour aller ici, pour aller acheter à bouffer, pour me faire à bouffer. Extraordinaire, extraordinaire. Et ils sont rentrés, j'étais une autre personne. Je me suis découvert une passion pour moi-même. Et c'est là que je me suis dit, mais Lola, tu ne fais plus d'efforts pour prendre du poids. Tu ne fais plus d'efforts pour manger plus. Tu manges ce qui te fait plaisir, oui. Tu cuisines ce qui te fait plaisir, oui. Tu remanges comme tout le monde. Pas totalement, ça c'est vrai. Il y a des choses qui me font encore peur, voilà. Mais je vais les affronter. Là, je redécouvre plein de choses. Et je commence à avoir mes petits plafards, mon petit poisson avec ma ratatouille et mon riz, mon machin et tout, ma tarte, mes quiches, mes pizzas. Et pas la bouffe de mes parents.
Je mesure la force de Lola, mais la maladie aussi est puissante. Je ne sais pas à quel point elle est encore présente en Lola, quand elle me raconte ce qu'elle mange, quand elle parle vite, toujours plus vite, sans pause, quand elle sépare le corps de la tête. J'entends encore la voix de l'anorexie. Mais si cette dernière est tenace, Lola l'est aussi. C'est un combat quotidien. Lola va dans quelques mois se retrouver seule, une étape nécessaire dans sa guérison, mais aussi dans sa vie. C'est aussi l'histoire d'une adolescente qui s'émancipe de sa famille et découvre qui elle est. Parce qu'on lui a collé l'étiquette anorexique, on oublie celle qui la porte. Une fille de 18 ans qui devient une jeune femme. Je regarde la lueur dans ses yeux. Elle aspire à la liberté.
L'indépendance, je pense que ce serait une vraie liberté parce que je recommence à zéro. Il n'y a plus de lycée, il n'y a plus de rien là. Là, vraiment, je vais me reconstruire un cercle amical parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de cercle amical du tout. À part, les deux auteurs avec qui je discute qui sont mis d'un amour inconditionnel, vraiment, ils sont extraordinaires. Et je vais partir de là et cet été, je pars en vacances parce que j'ai besoin de partir pour écrire parce que ma période, entre guillemets, d'adolescence se termine, ma période de calvaire se termine. Ouais, je suis encore anorexique. Ouais, je suis en guérison d'anorexie, mais j'en veux à la vie, ça c'est sûr. La vie a voulu de moi, hein. Je suis pas morte, donc la vie a voulu de moi. Alors ok, je vais écrire sur ça. Donc là, il y a une page qui va se fermer après le bac. J'ai hâte de terminer le bac, je suis très stressée du bac, parce que je suis seule face à tous ces cours. J'ai pas de professeur ni rien, mais bon, je me débrouille comme je peux. Et donc cet été, je pars, et il y a une des auteurs qui m'a dit « Tu passes à la maison, tu viens à la maison. » Alors on s'était jamais vu et tout. Et c'est impressionnant le bien-être que ça m'a fait. Parce qu'en fait, c'est juste une personne extraordinaire qui m'a vu Lola et qui n'a pas vu simplement un corps, qui n'a pas vu une maladie, qui n'a pas vu un mal-être. Elle a juste vu une personne qui était passionnée, qui était cool, qui était enjouée. J'ai besoin de ça, de faire des rencontres. J'ai besoin aussi juste de me retrouver avec moi et de me dire qu'en fait, je suis une super nénette et que je ne suis pas simplement une maladie, que je ne suis pas simplement quelqu'un qui va décevoir sa famille. Et donc je pense que partir dans mon appart, ça va détendre tout le monde. Moi, ça va m'ouvrir les yeux pour me dire, Lola, de toute façon, là, ça y est, t'es face à toi-même. Il n'y a personne qui t'empêche de guérir. Il n'y a personne qui t'empêche de manger. Il n'y a personne qui t'empêche de manger plus, de prendre du poids. Si c'est pour toi, tu le fais. Parce qu'à la maison, je ne peux pas me concentrer sur ça. Je ne peux pas me dire, t'as un objectif, c'est ça, parce que j'ai le bac, j'ai mon grand oral, j'ai les vacances, j'ai les parents, j'ai la bouffe, j'ai tout ça. Donc en fait, c'est constamment là.
Et t'as pas peur de te retrouver seule avec la maladie, justement ?
Oh non ! Bah non, elle est plus là. Vraiment, elle est en dehors de ma tête. Elle est là, je l'entends. Mais c'est comme dans un immeuble, tu vois. Moi, je suis au 7e étage, elle est juste derrière ma porte. Donc elle est pas loin, hein. Pas loin du tout. Donc il suffit juste que j'ouvre la porte, sauf qu'il y a une chaîne sur la porte. Elle pourra plus jamais rentrer. Mais plus jamais elle rentrera. Plus jamais je redescendrai encore plus bas. Parce que après, sinon, je... En fait, c'est que je ne pourrais pas descendre plus bas que je ne l'ai été. J'ai expérimenté le fin fond de la maladie au plus extrême. Donc là, je peux que aller vers l'autre extrême, c'est-à-dire le bonheur.
Plus jamais. C'est tout ce que je souhaite à Lola, de respirer, d'aimer et d'être aimée. L'anorexie ne définit personne. L'anorexie est un parasite, pas une identité, pas une fatalité. Lola, continue ton chemin vers la lumière, loin de la voie et des rivières tristes. Trace, ne te retourne pas. Je referme la porte, derrière laquelle Lola, ses morceaux de moi. Et je me prépare à la fin de la traversée. Dans le prochain épisode, Noah quitte l'adolescence. Ce jeune écorché vif a survécu à cette période tourmentée grâce à la musique. Adolescence, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck.
Une création.
Blast.